Bonsoir mes frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Oui, merci pour cette soirée. C'est une grâce pour vous d'être dans la maison du Seigneur, je pense, oui, d'avoir la santé. Alors on va voir pas mal de versets ce soir que je vous encourage à noter, car franchement, vous saurez en fin de soirée si votre esprit est en bonne santé. Ce n'est pas possible si votre cœur est ouvert et si vous écoutez ce que l'on va partager. Vous saurez si votre âme elle est malade ou en bonne santé. Paul dit aux Thessaloniciens ceci, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, nous voyons que c'est la volonté de Dieu que ceci, donc lisons-le. Alors ce n'est pas grave si vous ne cherchez pas tous les versets, par contre ce que vous pouvez faire c'est vraiment les noter et les méditer chez vous. 1 Thessaloniciens 5 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Bien sûr, avec votre participation, c'est évident. Il ne le fera pas sans que vous ne le vouliez. Donc, notre âme, notre esprit, notre corps doivent être en bonne santé. Dans le psaume 40 et quelques, David souffre. Est-ce que ça peut arriver de souffrir? Est-ce que notre âme peut être abattue? Est-ce que notre âme peut être desséchée? Vous prendrez une concordance et vous allez voir toutes les expressions qui montrent que notre âme peut aller mal. Ça peut arriver et il faut être honnête. D'ailleurs, David l'a exprimé. Mon âme est affamée, mon âme est découragée. Je voulais les marquer. Mon âme est troublée, mon âme pleure, mon âme se brise, mon âme est dans l'effroi, mon âme est triste. Dans le psaume 142, il dit « Tire mon âme de sa prison ». Vous voyez comme quoi nous pouvons parfois être... Mais prenez une concordance. Franchement, c'est l'occasion de voir combien notre âme, notre cœur peut être malheureux. Et là, dans le psaume 41, j'ai pris ce verset parce que ça indique une prière. Psaume 41, verset 5, je dis « Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme ». Voilà, c'est une bonne prière ça, non ?« Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi ». Notre âme peut être malade par rapport à des combats, par rapport à des luttes, par rapport à des difficultés, mais pas aussi par rapport à des péchés. Ça peut arriver. Un dimanche, il y a un monsieur qui est venu me voir pour la guérison, et je lui ai dit, mais monsieur, Dieu ne vous guérira que si vous réglez le problème du péché. Un péché, je pense que c'était assez grave. Et il y a des choses qui doivent être comprises, guéris mon âme. Et l'inverse est vrai, autant une âme peut être desséchée, autant une âme peut être rassasiée. Mais il faut que nous avancions, qu'est-ce que Dieu dit sur le corps? Est-ce que le corps vous en prenez soin? Tiens, est-ce que le corps vous en occupez? Est-ce que c'est bien de prendre soin de son corps? Oui, il faut prendre soin de son corps, mais il faut faire attention de ne pas tomber, parce qu'aujourd'hui c'est le problème dans le culte du corps. Il y a des gens, ils en sont arrivés là. Mais c'est bien de prendre soin de son corps, c'est normal. Le problème de l'âme, c'est important, tout notre être psychique. Mais ce soir, je voudrais vous parler de l'esprit. Parce que nous voulons être baptisés dans le Saint-Esprit. Est-ce que ça vous intéresse d'être rempli du Saint-Esprit? Je ne parle pas de parler en langue. Bien sûr que ça fait partie de la vie de l'esprit. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui parlent en langue et qui n'ont pas une vie de l'esprit, comme nous allons le voir ce soir. La Bible donc parle du corps, de l'âme, de l'esprit, on l'a vu. Nous devons prendre soin de notre esprit. Alors à quoi reconnaît-on un esprit en bonne santé? Est-ce que ça vous intéresse? Des fois on va chez le docteur, on fait des bilans, même d'ailleurs il vous pousse des fois, il vous fait telle prise de sang, et tatati et tatata, et ceci et cela. Je veux savoir, dit le docteur, si tout va bien. Et les gens ils le font, ils ont tellement peur qu'ils font tous les bilans qu'ils font. Si l'esprit de l'homme n'est pas dirigé par le Saint-Esprit, il va souffrir, c'est évident, d'accord? Si l'esprit de l'homme n'est pas conduit par le Saint-Esprit, l'esprit de l'homme est conduit par ses sentiments, par ses émotions, par son intelligence. Dieu s'intéresse à votre esprit. Vous vous intéressez à quoi, vous, dans votre vie? À votre âme, à votre esprit ou à votre corps? Aux trois? Pourquoi Dieu s'intéresserait-il à votre esprit? Eh bien parce que c'est là que l'esprit de Dieu réside. c'est où il est le temple du Saint-Esprit? Vous allez me dire, mais c'est notre corps. Oui, d'accord. Mais en vérité, le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Et la Bible parle souvent de l'esprit de l'homme. Alors, nous allons voir plusieurs lectures et je vous demande de les noter. On va les aborder. Mais je pense qu'il y a un travail personnel dans la prière qui devrait nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans cette démarche. Comment savoir si mon esprit va bien? D'accord? Alors, premier texte, on va en voir 12. Si on n'a pas le temps, on ne les verra pas tous, on les verra mardi prochain, si le Seigneur n'est pas revenu. Si le Seigneur est revenu, je ne serai pas là. D'accord? Ça ne vous gêne pas? Hein? Dans Esaïe, oui, vous non plus. Oui, mais j'ai bien peur qu'il y ait des chrétiens qui soient là. Esaïe 66, regardez, verset 1er et verset 2. Il vous faut regarder tous les textes, on va en prendre 12, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Je pense à ce verset, vous voyez, en même temps que dans le psaume 51, quand David, après une année de sécheresse voulue par le péché, enfin causée par le péché, il dit « Renouvelle à moi un esprit bien disposé ». Ça, c'est une prière. Eh bien, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Si vraiment nous sommes droits devant Dieu, qu'on n'est pas venu pour la bénédiction, mais on est venu pour connaître vraiment Dieu et savoir ce qui se passe dans notre esprit, c'est ce qui arrivera. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Parce que des fois, notre esprit peut être pas bien du tout. Et David a joué la comédie pendant un an. Esaïe 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Donc, j'ai pris celui-là en premier, j'aurais pu en prendre un autre. Mais ça fait rien. J'ai pris celui-là, pourquoi? Parce que c'est un esprit qui est agréable à Dieu. Vous avez même dit que Dieu porte ses regards sur vous. Donc, un esprit abattu, dans le sens, bien sûr, d'avoir beaucoup de respect pour la parole. Vous avez vu, je porterai mes regards sur celui qui souffre. On va voir qu'il y a de la souffrance et on va voir qu'il y a beaucoup de joie dans la vie de l'esprit. Et ça, c'est l'équilibre. On va le voir pourquoi. Pourquoi il y a des textes qui montrent, voyez, mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Et là, on a l'impression que c'est exactement l'inverse, c'est celui qui souffre. On pourrait dire, mais tiens, eh bien, on va le voir, on va l'expliquer. Un esprit abattu, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est complètement découragé. Un esprit qui souffre, qui a l'esprit abattu, c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour la parole de Dieu. Est-ce que vous prenez au sérieux tout ce que Dieu dit? Ou est-ce que vous faites comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, « Oh, ça c'est pas grave, ça c'est dans l'Ancien Testament, ou ça c'est pas important, de toute façon tout le monde fait pareil. » Non, 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 ça marche pas comme ça. Sur celui qui tremble à ma parole, Dieu l'a dit, c'est important. Je viens dans la maison du Seigneur, je viens pas pour faire le malin, l'intéressant, de la comédie. C'est vrai qu'on se demande pourquoi il y a tant de chrétiens qui ont été des comédiens. Ils étaient dans le péché, ils venaient dans la maison du Seigneur. Je pense que l'ennemi utilisait ces gens pour attrister l'Église, attrister le Seigneur dans l'Église. Mais normalement, dans une Église, on est sérieux, on entend « Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Seigneur, mon esprit doit être continuellement, c'est écrit, dans la crainte respectueuse. Voilà un des premiers aspects d'un esprit en bonne santé. Dieu a pu utiliser Noé, pourquoi ? Il a été saisi d'une crainte respectueuse. Là, on n'est pas dans la confiance en soi, dans le positif, il faut positiver. Mais ce n'est pas ça la vie avec Dieu. On n'est pas là pour positiver. Ça, c'est les émotions. On est là par rapport à Dieu. Quelle est la foi que j'ai en Dieu? Est-ce que j'ai une crainte respectueuse? Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? La crainte de Dieu. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui a l'esprit abattu, et il explique... C'est celui qui tremble à ma parole. Il n'est pas découragé, ce n'est pas une question d'abattement. C'est une question de profond respect. Il y a un respect qui provoque une grande crainte. Je veux faire attention. Dieu l'a dit, c'est important. Dieu a dit qu'il fallait honorer ses parents. Eh bien, je le fais. Je prie pour eux. Moi, j'ai entendu des chrétiens, « Oh, mes parents, ma mère, elle est folle, ma mère. Elle est vieille maintenant, elle est complètement déboussolée, la pauvre. » Moi, je ne crois pas qu'il faut parler comme ça de ses parents. Pourquoi ? Parce que la Bible dit « Tu honoreras ton père et ta mère ». C'est ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en braque avec Dieu. Leur esprit est en mauvaise santé. Ils s'autorisent. Oui, j'ai pris ce texte, j'aurais pu en prendre bien d'autres. Deuxième texte, le psaume 51, verset 19. Je voudrais que vous les méditiez, ces textes, parce que là, on les aborde, mais ce n'est pas suffisant, bien entendu. C'est justement dans ce psaume où David a passé un an à faire la comédie. Pourtant, c'était David. Un an à faire la comédie. Et quand il a été coincé, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a continué la comédie ? Non, il s'est repenti. Il s'est repenti, gloire à Dieu. Et il va écrire ce psaume. Donc c'est là qu'il dit au verset 12, « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Vous voyez, « Ne me retire pas ton esprit saint. » Il savait très bien ce qui arrivait. Vous savez, David avait vu ce qui se passe dans le cœur d'un homme dont l'esprit s'est retiré. C'était l'esprit de qui ? L'esprit de Saül. Et pourtant, il avait l'onction. Mais l'esprit s'était retiré de lui. Et il a vu comment il a fini. Il n'a pas dit « Ne me retire pas la royauté » parce qu'il était roi. Et je pense qu'il n'était pas inquiété par ça. « Ne me retire pas ton esprit saint. » Et au verset 19, il exprime ce qui plaît à Dieu. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Ça, c'est une expression. Arrêtez-vous-y chaque fois. Ça vous aidera. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Un chrétien qui ne ressent rien lorsqu'il a commis un péché, je pense que c'est inquiétant. C'est exactement ce qu'il veut dire. Hélas, nous ne devrions pas pécher, mais est-ce que ça arrive de pécher ? Ben oui, ça arrive. Ça arrive, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Ça peut arriver de pécher. Donc, ça on le sait. Puis bon, il y a le péché volontaire, le péché involontaire, etc. Ce n'est pas l'objet de la réunion. Mais quand un chrétien ne ressent plus rien après avoir commis un péché, je peux vous dire que son état, son âme n'est pas en bonne santé. Ça, c'est sûr. Quand on constate un péché ou quand quelqu'un nous aide à dire « Mais tu te rends compte, tu as parlé mal ?» Mais t'as vu comment tu as parlé, on parlait des parents, t'as vu comment t'as parlé de ta mère quand même ? Tu devrais t'humilier, oh t'inquiète. Moi il me semble que nous devrions veiller les uns sur les autres. Ça peut arriver, on n'est pas à l'abri de dire une bêtise. Mais le problème ce n'est pas l'ignorance, bien sûr ça me fait partie. Mais quand le Seigneur nous montre quelque chose, quand de suite David a réalisé dans quel état il était, de perdition, il le dit, mes os se desséchaient, ma vigueur n'était que sécheresse. Il va être honnête, il va exprimer sa maladie spirituelle parce qu'il avait péché. Et quand on a péché, on devrait dire « Seigneur, j'ai péché, je te demande pardon ». Vous comprenez pourquoi ce qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Je suis brisé. J'ai fait ça, c'est pas bien. Je prends un exemple. Manquer le culte. Bon, si vous manquez le culte parce que vous êtes infirmier, médecin, boulanger, etc., fatigué parce que vous aidez quelqu'un. Imaginez, justement, votre maman est en train de tomber malade, elle a besoin d'aller chez le docteur, il faut prendre soin des siens. Mais par exemple, si on manque le culte pour rien, pour aucune raison, vous ne pensez pas que déjà, quand même, vous n'allez peut-être pas être d'accord, mais vous ne croyez pas quand même que c'est notre place le dimanche à l'église ? Oui ou non ? J'exagère ? Je deviens légaliste ? Vous ne croyez pas que c'est un rendez-vous que nous avons avec le Seigneur ? Et moi, je crois que ça commence avec des choses comme ça. Il me semble que de la même manière qu'on demanderait pardon à quelqu'un à qui l'on a menti, on devrait demander pardon à Dieu de ne pas avoir été dans sa maison. Parce que c'est avec des choses petites que l'on devient insensible à la désobéissance. Et ça, c'est inquiétant, moi je vous le dis, quand on commet un péché et que ça ne nous fait plus rien. C'est pour ça qu'un esprit en bonne santé, c'est un esprit qui est brisé, c'est un esprit qui est contrit par rapport à son comportement. J'ai mal parlé à mon épouse. Est-ce que ça peut arriver de mal parler à quelqu'un ? Ça vous est déjà arrivé de mal parler à quelqu'un ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Oh, de toute façon, ça lui fera du bien. Ou est-ce que vous lui avez dit « Je te demande pardon ». Mes frères et sœurs, il faut veiller à ces choses. Il y a des gens qui disent « Oh, c'est pas grave, laisse tomber ». Moi, je crois que ce qui est agréable à Dieu, c'est un esprit contrit et un esprit brisé. Réfléchissons-y. Je ne veux pas vous convaincre, moi, pour vous convaincre, mais je peux vous dire que ce sont des petites choses qui ajoutées les unes aux autres. Vous allez voir à la fin de la réunion combien tout ajouté, ça fait quand même quelque chose d'important. Psaume 34, verset 19. Regardez les pensées et comment Dieu se comporte, parce que c'est bien de savoir comment vous devez vous comporter, mais qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'il voit certaines choses? Psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Vous avez vu? Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Qu'est-ce que ça veut dire? Un esprit contrit, un esprit humilié, un esprit abattu, un esprit brisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et pourquoi Dieu est près de ces gens-là? Pourquoi il sauve ces gens-là? Eh bien, parce que ce sont des chrétiens qui vivent dans une véritable repentance. C'est ça que ça veut dire dans ce texte. Il y a la crainte de la parole, il y a une bonne réaction lorsqu'on a péché, et troisièmement, il y a ce comportement, je suis vigilant, je me repens. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. Comment pouvons-nous nous éprouver nous-mêmes? Comment pouvons-nous nous examiner nous-mêmes si nous ne sommes pas dans cet état d'esprit? Bien sûr qu'il faut s'efforcer de ne pas pécher, mais quand même, vous le savez, on a quand même tous des difficultés. Et si on n'a pas un esprit de repentance, je peux vous dire que ça va aller mal. Si le péché ne nous attriste pas ou ne nous attriste plus, c'est comme notre âme est malade. Moi, je l'ai vu, ça. Moi, au début, je ne faisais pas attention. Vous voyez, en préparant cette réunion, je pensais à un couple qui était ici au début, quand je suis arrivé. Et puis, au mois de juin, je leur ai dit, vous partez en vacances cet été? Oui. Ah, monsieur, je croyais qu'ils blaguaient. Oui, monsieur, qu'on part en vacances, nous, on part un mois à la mer, on prend nos valises, même pas la Bible. Nous, on ne veut pas lire la Bible pendant un mois, c'est les vraies vacances. J'ai dit, mais vous n'allez pas au culte? Ah non, 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 nous, c'est les vacances. Et vous voyez, j'ai senti dans mon esprit que ces gens-là étaient en train de rétrograder. Et ils ont bien sûr rétrogradé. Je crois qu'il y a des choses qui servent de révélateur, vraiment. Le péché devrait toujours nous attrister. Si le péché ne vous attriste plus, je peux vous dire que votre âme, elle est malade. Vous êtes d'accord avec ce que je vous dis? C'est dans cet état d'esprit que nous sommes gardés sensibles. Parce que, vous voyez, renouvelle un esprit bien disposé. Eh bien, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de faire. Seigneur, eh bien, aide-moi. Si je vois quelque chose dans la télé qui est grossier, qui est vulgaire, hop, 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 je change. C'est comme ça que je suis. Et Dieu le voit. Je porterai mes regards. Je serai près de celui-là. C'est ça. Vous voyez, cette intelligence. Esaïe 57, ne le cherchez pas. Je suis avec l'homme contrit et humilié. Oui, je suis avec l'homme contrit et humilié. Pourquoi? Eh bien, afin de ranimer les esprits humiliés. Esaïe 57, verset 15. Un esprit humilié, humble, brisé, abattu, c'est un croyant qui ne regarde pas à lui-même. Il regarde à ce que Dieu dit. Il sait qu'il a des faiblesses. Il sait qu'il a des manquements. Il sait qu'il peut commettre un péché. Il sait qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais il est toujours sensible à ces choses-là. Et il se corrige. L'humilité ne concerne pas que la relation de l'homme avec Dieu. L'humilité aussi concerne la relation de l'homme avec l'homme. Il faut bien le comprendre, ça. Il y a des gens qui sont très très bien avec Dieu. Ils aiment beaucoup Dieu. Mais il n'y a aucune relation vraie avec le prochain. Quand on dédaigne les personnes, on ne fait pas preuve d'humilité. La Bible dit, écoutez, elle le dit comme ça, que chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts, considère celui des autres. Voilà, ça c'est un verset simple qui nous permet de dire, bon voilà, bien sûr je m'occupe de moi, mais je fais très attention aux autres. On ne dédaigne pas les gens. C'est important, je poserai mes regards sur celui qui a l'esprit humilié. C'est important. C'est ça la santé spirituelle. Cinquièmement, Matthieu 5, 3. Vous connaissez ce texte? Matthieu 5, c'est le sermon sur la montagne. Alors ça paraît négatif, mais à l'abattement, le brisement, etc., vous pouvez dire, oula, eh bien dis donc, ça va être chouette. Matthieu chapitre 5, verset 3. De toute façon, chaque fois que vous verrez un verset avec l'esprit, vous regarderez ce qui est ajouté à côté. Ça vous permettra, ça nous permettra de nous corriger. Heureux les pauvres en esprit. Conséquence, car le royaume des cieux est à eux. Alors ce verset, il a été très mal compris, très mal interprété par beaucoup de dénominations, à tel point qu'il y a des églises qui ne s'occupent que des pauvres. Ils évangélisent les pauvres. Il y a des églises, ils s'occupent des pauvres. Est-ce qu'il faut s'occuper des pauvres ou est-ce qu'il faut s'occuper des pauvres et des riches? Bien sûr. Les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. C'est important d'être heureux. Vous voyez, là, on n'est plus dans le brisement. Vous voyez, on est en train de changer. De voir qu'il y a autre chose qui se connecte avec. Il y a un bonheur pour les pauvres en esprit. C'est-à-dire, un pauvre en esprit, il y a des versions, je crois que la version anglaise, c'est « heureux les mendiants ». Moi, j'aime cette version parce qu'un mendiant, c'est quelqu'un qui dépend de quelqu'un d'autre pour manger. Et c'est exactement la pensée. C'est-à-dire que même si on a de l'argent, même si on a tout ce qu'il faut, je dépendrai toujours de Dieu. Je ne sais pas si vous avez des sous, si vous avez des talents, si vous avez de l'abondance. Ça, c'est pas le problème. Est-ce que vous pouvez dire, moi, je dépends de Dieu tous les jours de ma vie. Je dépends de Dieu. C'est important, ça. Est-ce que vraiment vous pouvez dire, moi, je sais que bien sûr que je bénis Dieu pour les forces physiques que j'ai, mais si Dieu veut, demain, les forces, elles peuvent disparaître. Tout est grâce. Heureux les pauvres, en esprit, les pauvres spirituellement. Est-ce que vous dépendez de Dieu? Est-ce que vous dites, oui, je dépends de toi, Seigneur, pour tout. Même si vous aviez 10 châteaux, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 10 châteaux dans l'auditoire? Ou 5, juste? Croyez-moi, ça ne serait pas un problème. Vous pouvez être très pauvre et ne pas dépendre de Dieu. Et vous pouvez être très riche matériellement et vraiment dépendre de lui. Mes frères et sœurs, c'est archi important. Ne dépendez pas de vos expériences. Il y a des gens, ils ont fait des... Moi, je sais, ça m'a choqué ça, quand je suis rentré dans le ministère. Des gens qui témoignaient. J'ai fait cette expérience, j'ai été délivré. Le Seigneur a fait ceci. Des gens, vous étiez là, ces gens, tu te dis, ils vont être fidèles 30 ans, 40 ans. Rien qu'avec cette expérience. Vous appreniez que 8 jours après, ils avaient rétrogradé. Vous me croyez? Ce ne sont pas des gens qui sont pauvres en esprit, ce sont des gens qui ont fait des expériences. C'est peut-être, pas mieux. Mais quand on est pauvre en esprit, on dépend de Dieu. Expérience ou pas, faiblesse ou pas, force ou pas, tout ce que vous voudrez. Ne dépendez pas de vos expériences, ne dépendez pas de vos connaissances, de vos capacités, de votre argent, tout ça c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas grave. Heureux les pauvres en esprit. Voilà quelqu'un qui est en bonne santé. Vraiment quelqu'un qui est en bonne santé. Béni soit Dieu pour les espérants. Vous voyez, quand Dieu, l'église de Laodicée, elle est riche. Tu crois que tu es riche? Elle était riche matériellement. Mais le Seigneur dit, tu crois que tu es riche en vérité? Tu es pauvre. Pourquoi? Parce que malgré sa richesse, elle avait réussi à mettre Jésus dehors. Vous voyez? Alors que la pauvreté spirituelle, Seigneur, mais j'ai toujours besoin de toi. Quand on chantait, compte les bienfaits de Dieu. Moi, je peux vous dire que je le chante avec cœur, ce cantique. Compte les bienfaits de Dieu. Tout est un bienfait. Tout est un bienfait. Tout, je peux vous le dire. Dès qu'un chrétien dépend de lui-même, je me souviens de ce chrétien qui me disait, Monsieur Gaumont, en voiture, je risque rien, j'ai acheté une BMW, je sais que je risque rien. Moi, je crois que, bien sûr, il vaut mieux rouler peut-être en BMW que dans une ou deux chevaux, je ne sais rien. Non. Mais je crois que ce qu'on a besoin, que vous ayez une bicyclette ou un avion, je crois que ce qu'il vous faut, c'est que Dieu vous garde. Vous ne croyez pas? Seigneur, tu me gardes. Merci, c'est vrai, j'ai pu acheter une voiture costaud. J'ai pu acheter une maison costaud. Mais vous savez, si Dieu veut la faire trembler, la maison, même si elle fait 1 mètre d'épaisseur, demandez au roi de Jéricho si ça a un château, il n'a pas commencé à trembler quand. Vous savez, mes frères et sœurs, heureux les pauvres en esprit. Ne dépendez pas de vous, dépendez de Jésus. Sixièmement, on l'a vu tout à l'heure lorsqu'on partageait ce moment de prière. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1er. Voilà, il y a 3 pensées. Là, c'est un esprit en bonne santé parce que là, on attaque l'équilibre maintenant. l'équilibre, 2 Timothée, chapitre 1er, verset 6. Regardez bien ce que Dieu nous a donné dans notre esprit. Il y a des gens, vous savez, ils savent même pas qu'ils ont un esprit, tellement ils sont loin de Dieu. Vous saviez-vous que vous aviez un esprit quand vous êtes venu à l'église? Moi, je ne savais même pas qu'on avait un esprit. Je savais qu'on avait un corps, une âme, je ne savais même pas qu'on avait un esprit. Mais comment j'étais loin de Dieu. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1er, verset 6. « C'est pourquoi je t'exhorte, vous voyez ça c'est important, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car l'esprit, vous voyez, E majuscule, que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour, de sagesse. » Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit dans un esprit qui est en bonne santé? Eh bien, l'esprit de l'homme se laisse remplir de ces trois vertus, la force, l'amour et la sagesse. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a besoin de force pour combattre. Il y a des combats. Si on n'a pas de force, ça va être un combat charnel. Et beaucoup de chrétiens sont en très mauvaise santé. Quand ils ont un problème, ils se débattent, ils téléphonent, ils se disputent, ils s'expliquent. Voilà. Si vous combattez contre la chair et le sang, votre esprit est malade. Si vous avez appris à combattre le bon combat de la foi, votre esprit est en bonne santé. L'esprit de Dieu, lorsqu'il a la liberté d'entrer dans notre esprit, qu'on ne l'a pas attristé, qu'on ne l'a pas éteint, comme dit l'apôtre, qu'on ne l'a pas, je veux dire, étouffé, il agit en nous et il nous communique cette force. Voilà, et il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Beaucoup de gens confondent la timidité avec l'humilité. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui disent, oh, moi, vous savez, je suis timide, l'air dit, je suis humble, vous savez, je suis effacé, je dis rien. Non, je crois que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Dieu nous a donné un esprit qui nous permet de combattre tous. On peut combattre chez soi, on peut se mettre à genoux et combattre le bon combat de la foi. Oui ou non? Ah oui, c'est important. L'humilité, c'est un oubli de soi. L'humilité. Je m'oublie moi-même et tout mon être est tourné vers le Seigneur. Un esprit de force. Oui, un esprit de force. Parce que mes frères et sœurs, on doit s'exhorter les uns les autres à combattre. On a appris que tel pasteur était malade, on le soutient. On s'y tient, il y a une sœur qui a 5 enfants, ils sont tous les 5 convertis. On prie pour eux, parce qu'elle souffre de cela, vous voyez. J'ai reçu un esprit de force, je peux prier pour toi, et toi tu pries pour moi. Dans une église où les gens sont individualistes, leur âme est archi malade. Ils peuvent trouver les justificatifs qu'ils veulent, les explications qu'ils veulent, tout ce qu'ils voudront. Écoutez-moi bien mes frères et sœurs, si vous êtes individualiste, si vous n'aimez pas le corps de Christ, l'apôtre Paul a dit, c'est clair, vous êtes le corps de Christ. Un corps, il travaille ensemble. C'est pas toujours évident. Peut-être, dans une famille, on peut être 5, 6, il y a des familles nombreuses. Nous, on était 6. C'est beaucoup, 6 ou non? Ouais, c'est beaucoup. Bon, eh bien, des fois, il y avait des petits trucs, mais ça fait rien. On n'a jamais douté qu'on était une famille. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et on s'aime, et tout nous a toujours poussé à nous aimer les uns les autres. On est une famille. L'Église, c'est un corps qui doit rester ensemble. Et le Saint-Esprit nous donne un esprit de force. Alléluia! Si vous aimez pas l'Église, au moins l'Église, je n'y vais plus, ce sont tous des hypocrites. Et mais franchement, il faut quand même être vraiment pas gêné pour dire un truc pareil. Moi, je crois franchement que, enfin, moi, je connais l'Église, ça fait 20 ans que je suis là. Je peux vous dire que dans les Églises, il y a de belles âmes qui aiment Dieu et ça vaut la peine de travailler ensemble, d'un même cœur, attaché à Dieu. Ça plaît à Dieu. L'Esprit de Dieu agit, rend l'Esprit saint, rend l'Esprit en bonne santé. Quand on dit, moi j'irai prier avec les frères, avec les sœurs, j'irai avec mes frères, avec mes sœurs. Si on ne fait pas ces choses, eh bien, notre esprit est malade. Moi j'ai vu combien de chrétiens ne plus aller à l'église parce qu'ils ont eu une contrariété. Et pourtant, je crois que Dieu les éprouvait. Parce qu'est-ce que Dieu peut nous éprouver dans une église? Est-ce que Dieu peut nous éprouver? Ben oui. Est-ce que Dieu nous éprouve au travail? Dieu nous éprouve dans la famille? Dieu nous éprouve dans la santé? Dieu peut nous éprouver dans toute autre chose. Considéré comme un sujet de joie complète, toutes les épreuves qui peuvent nous être amenées. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Un esprit de force, un esprit d'amour. Un esprit d'amour, alors là, ce n'est pas par rapport au combat. L'esprit d'amour, c'est par rapport aux autres. Justement, j'ai des frères, j'ai des sœurs, je combats avec eux, je prie avec eux, je jeûne avec eux, je loue avec eux, j'évangélise avec eux, etc., etc. Mais un esprit d'amour. Voilà, Seigneur, donne-moi de l'amour. Franchement, c'est peut-être ce qui me manque le plus, parce que ça va être ceci. De quoi vous manquez le plus, vous? Si on faisait, si on demandait à Jonathan, ben moi, c'est peut-être de patience. Si vous demandez à Nicolas, il me dit, ben moi, j'ai du mal à aimer mon formateur. Vous voyez, des trucs comme ça. C'est ce que tu m'as. Vous voyez, chacun, Monsieur Pierre, il me dit, ben moi, mon pasteur, j'ai du mal. Est-ce qu'on peut être honnête et dire au Seigneur, tu vois, Seigneur, donne-moi de l'amour pour ma famille? Donne-moi de l'amour pour ma femme. Est-ce que ça peut arriver qu'on passe des moments à vide? Ben oui. Regardez les textes de David. Mon âme est abattue, mon âme est découragée, mon âme est malade, mon âme est en prison. Oui, c'est des combats. Mais Seigneur, tu as ton esprit d'amour. Je ne peux même pas recevoir un milliardième de l'amour que tu voudrais me donner à moi. Alors Seigneur, donne-moi de l'amour. Un esprit qui est en bonne santé, c'est un esprit d'amour. J'aime mes frères, j'aime l'Église, j'aime le corps de Christ, j'ai décidé d'aimer comme ça, point barre, inconditionnellement. Voilà, ça c'est sûr, si vous aimez les gens inconditionnellement, vous êtes en bonne santé. Si vous ne les aimez que conditionnellement, c'est sûr que votre âme a besoin de soins. Un esprit de sagesse, Seigneur, donne-moi de la sagesse. J'ai des problèmes, je ne sais pas comment faire. Donne-moi de la sagesse. Si quelqu'un manque que de sagesse, qu'il la demande à Dieu. On va être gêné quand on va rencontrer le Seigneur, parce qu'on ne pourra pas lui dire, Seigneur, tu sais, tu aurais dû me donner davantage de sagesse, j'aurais été meilleur chrétien, j'aurais été solide, tu sais, madame. Le Seigneur a dit, mais pourquoi tu ne l'as pas demandé? Vous ne croyez pas que ça risque de se présenter, ça? L'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui peut augmenter en nous, parce que c'est biblique ce que je vous dis, est un esprit de sagesse. Vous allez rencontrer une situation ou deux dans l'église, au travail, demain, les enfants, n'importe. Seigneur, donne-moi de la sagesse. L'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse. Quand un chrétien est tout le temps ridicule, qui manque de bon sens, c'est que son âme est malade. Bon, ça peut arriver des fois de se louper. Est-ce que ça peut arriver des fois d'être maladroit? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être maladroit? Bon, ne jouons pas les comédiens. Ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Ben justement, on a un esprit abattu. Je te demande pardon. J'aurais pas dû te dire ça, je m'excuse. Ça vous est jamais arrivé de regretter des paroles? Ça vous est jamais arrivé? Si j'avais su, je me serais... Moi, dans le couple, combien de fois jamais c'est arrivé? Si j'avais su. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Et Dieu vous la donnera. Vous le croyez, ça? Ne vous étourdissez pas en disant « Je vais demander à Dieu, pourquoi ?» Écoutez-moi bien, demandez-lui maintenant, sur la terre, de la sagesse, il vous la donnera. Voyez là, Galates 6, un petit peu avant, c'est important ces choses, enfin, j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres, mais on va commencer, continuer, regardez, Galates 6, voyez là, on n'est plus dans le brisement, l'esprit abattu, on est dans d'autres vertus. Galates 6, verset 1er. Là, ça concerne la discipline. Vous voyez, la discipline, ça peut être dans la famille, la discipline dans l'église. Est-ce que c'est important, la discipline, discipliner ses enfants? Est-ce que c'est facile de discipliner ses enfants? Ce n'est pas toujours facile de discipliner dans l'église, les frères, les sœurs. Mais regardez, qu'est-ce que Dieu nous demande? Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, voyez, redressez-le avec un esprit de douceur. Voilà. La douceur, c'est vraiment un fruit de l'esprit. C'est important. Vous voyez, la douceur, la force, on vient de parler de force. Vous voyez, vous dites, ah tiens, c'est complémentaire, c'est contradictoire, c'est complémentaire. La douceur, la fermeté, la discipline dans l'église, la maîtrise de soi, tout ça doit se développer. C'est là qu'on reconnaît quelqu'un en bonne santé. Pourquoi dans les églises on a établi des anciens? Mais parce qu'on a vérifié chez ces personnes qu'elles développaient ces fruits. La maîtrise de soi, la patience, la douceur, la force par rapport à tous les sujets qui pouvaient se présenter. Bien sûr qu'il faut utiliser la douceur pour des situations. Parfois il faut utiliser la force pour les combats. Est-ce que c'est clair la façon dont je vous l'explique? C'est ça mes frères et sœurs, une personne qui est en bonne santé. Un esprit doux, puisqu'il est parlé de douceur, c'est un esprit qui perçoit la volonté de Dieu. Quand on est énervé, irrité, agité, en colère, ça va être très 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 difficile de discerner la volonté de Dieu. Mais si Dieu nous demande d'avoir un esprit de douceur, c'est parce qu'un esprit doux, c'est l'inverse d'un esprit dur. Un esprit dur ne ressent rien. Un terrain dur ne reçoit rien. Un cœur doux reçoit la pensée du Seigneur. Toutes ces vertus doivent s'équilibrer les unes aux autres. Car ce qui fait la beauté d'une église, ce qui fait la beauté d'un chrétien, c'est qu'il soit un chrétien équilibré. Nos gens à l'extérieur, ils n'ont pas besoin de voir des églises de 200 ou 2000 personnes. Les gens, ils ont besoin de voir des gens équilibrés. Est-ce que vous comprenez? Un nouveau rentre dans une église, ils doivent voir des gens équilibrés. Nous, on croit que les gens sont impressionnés par la quantité. Non, non, non. Les gens, ils sont impressionnés par le fruit. Ça, c'est sûr. Romains 12, verset 11, vous voyez, c'est dans la même pensée. Vous voyez, il y a un comportement qui fait que l'âme est en bonne santé. Mais il faut l'expliquer ça. Parce qu'attention, ce n'est pas forcément bien compris. Ayez du zèle. Mais le zèle, vous ne croyez pas qu'avec le zèle, on a fait pas mal de bêtises? Alors, mais là, franchement, je n'aurai pas le temps de l'expliquer. Et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Vous voyez, d'un côté, un esprit doux, un esprit fort, un esprit abattu, un esprit fervent. Mais vous savez, la ferveur, comme le zèle d'ailleurs, tout ça, ça peut être charnel. On peut avoir de la ferveur parce que ça nous intéresse, ou du zèle parce qu'il y a des choses qui nous intéressent. Mais quand c'est du zèle et de la ferveur spirituelle, ça nous aide à servir Dieu. Il y a des gens, ils font des choses parce que ça leur plaît. Ils le voient, voilà, moi ça me plaît, donc je sers Dieu dans mon paramètre à moi. Si ça ne va pas, je ne fais pas. Si je ne peux pas faire ça, mais je ne le fais pas. Vous comprenez bien que ça, c'est une ferveur qui ne correspond pas à ce qu'on est en train de lire. Il y a une ferveur qui ne dure pas. C'est une ferveur qui est charnelle, qui est même diabolique. Croyez-moi, c'est biblique. Mais la ferveur spirituelle, elle vous permet de durer. Je fais ce qu'on me demande. Je disais l'autre jour aux anciens, lorsque Dieu a mis son onction sur David, la première chose qu'on lui a demandé, et bien d'ailleurs il est retourné garder ses moutons, et la première chose qu'on lui a demandé, c'est d'aller jouer de l'harpe chez un certain roi qui commençait à mal tourner. Il aurait pu dire, attendez, je vais vous montrer ma nouvelle carte de visite, je vais vous expliquer. Regardez, nouveau roi. C'est moi le nouveau roi. Je ne vais pas aller jouer de la guitare chez Saül. Mes frères et sœurs, cette ferveur, quoi que ce soit que vous fassiez, elle vous permet d'avancer. Et ça, c'est une affaire de bonne santé. Une vraie ferveur d'esprit, c'est quelqu'un qui est en bonne santé. Voilà, on me demande ça, je le fais. On ne me le demande pas, ce n'est pas grave. Tiens, il y a 6 mois qu'on ne m'a pas demandé de prêcher. Tiens, pourquoi ? Le Seigneur, il nous éprouve, le Seigneur, il permet. Est-ce que vous comprenez? Mais je garde cette ferveur. Quand notre ferveur, elle est que pour ce qui nous intéresse, croyez-moi que notre âme n'est pas en bonne santé. Proverbe 17, verset 27. Ce matin, j'étais en train de lire ce verset, quand un ancien d'une église m'a appelé par rapport à un problème. J'ai dit, écoute, je vais te donner la solution. Le frère, il était paniqué par rapport à une situation compliquée, j'avoue. Et je lui dis, écoute, je vais te donner la solution. Proverbe 17, verset 20. Ça m'a presque fait sourire. Mais regardez ce verset. Ça, c'est quelqu'un qui est en bonne santé. Alors, vous savez maintenant si vous êtes en bonne santé ou pas, non? Un peu. Proverbe 17, 27. Regardez bien, regardez bien. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Vous avez vu, on passe de l'abattement, le brisement, la ferveur, la force, la douceur, un esprit calme. Ça, c'est quelque chose. Quelqu'un qui a un esprit calme, c'est un homme, comment il est ? Intelligent. Ça, c'est un signe de bonne santé. Ça, c'est la preuve qu'on ne combat pas contre la chair et le sang, qu'on n'a pas besoin de s'expliquer, d'aller voir les gens et de passer 2 heures à des discussions qui vont nous fatiguer et nous énerver. Moi, ça m'est arrivé, ça. Moi, ça m'est arrivé avec des chrétiens de rester jusqu'à 2 heures du matin. 2 heures du matin. À discuter par rapport à un sujet qui nous préoccupait. Et je me suis rendu compte que vraiment, j'étais pas intelligent, je peux vous le dire. Il vaut mieux se mettre à genoux 5 minutes et dire « Seigneur, tu combattras pour moi, que ta volonté soit faite. » Et en principe, ça marche. Et puis, ça prend moins de temps en plus. L'homme calme. D'un côté, vous voyez, notre esprit doit être fervent. Vous voyez, mes frères et sœurs, la bonne santé, c'est ça. Je suis fervent. Je suis fort. Je demande au Seigneur cette force. Parce que je veux prier. Je veux prier. Pour... L'autre jour, je vous ai demandé de prier pour les pasteurs de Midi-Pyrénées. Est-ce que vous l'avez fait? Parce que je veux le faire. Je sais que ce n'est pas facile de diriger une église. Je vais prier pour tous les pasteurs de Midi-Pyrénées. Peut-être que dans 3 mois, vous direz, je veux avoir la liste de tous les pasteurs de la France. Et peut-être un jour, vous allez prier pour 20, pour le lendemain pour les autres, une vingtaine. Soyez fervent d'esprit. Voilà. Et ça plaît à Dieu. Vous ne connaîtrez jamais ces pasteurs, mais je peux vous dire que Dieu les soutiendra. Croyez-moi. D'un côté, un esprit fervent. De l'autre, un esprit calme. La ferveur pour servir le Seigneur. Le calme pour régler les problèmes. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? C'est important, mes frères et sœurs. Alors, on a parlé d'abattement, mais regardez, Luc 1, 47. Je vais un peu vite, mais comme vous notez les textes, notez-les. Franchement, c'est dommage que vous ne les notiez pas, parce que c'est impossible que vous les reteniez. Mais si vous les notez et que vous les méditiez, laissez-moi vous dire que vous ferez franchement des progrès. Croyez-moi, c'est de cette sorte que j'agis. Luc 1, 47. C'est Marie qui parle. Elle a été... interpellée par le Seigneur, vraiment elle vient de faire une expérience qui est quand même une belle expérience, croyez-moi. Regardez ce qu'elle dit. Ça complète toutes ces choses. Marie dit, verset 46, « Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Vous voyez la complémentarité du comportement. « Je suis brisé. » Par rapport à mes péchés, je suis sérieux avec les péchés. Mon esprit est brisé lorsque j'ai commis une erreur. Vraiment, j'ai honte, Seigneur, je te demande pardon. Je ne prendrai pas la Sainte Cène dimanche sans avoir réglé ce truc. J'envoie un texto au frère ou je te demande pardon. Je ne sais pas. Mon esprit, je règle les choses. Et de notre côté, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Vis-à-vis des autres, c'est préférable d'avoir un cœur brisé. Vis-à-vis de Dieu, c'est bien de se réjouir par rapport au salut de notre âme. Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. On conserve un esprit brisé, c'est clair. Ça nous permettra de gérer toutes les situations dans lesquelles on patauge. Et de notre côté, on garde un esprit qui se réjouit. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas ne pas nous réjouir par rapport au nom qui nous a sauvés, par rapport au sang qui nous a lavés, par rapport à son pardon qui nous a été octroyé, etc., etc. On ne peut pas ne pas se réjouir. Un esprit en bonne santé, c'est quelqu'un qui chante « Mon âme bénit l'Éternel ». C'est quelqu'un qui lira, si vous râlez, si vous vous levez le matin en râlant parce qu'il pleut, lisez le psaume 103. Et après vous lisez le psaume 119, ça va vous calmer. Voilà. Mais mes frères et sœurs, non mais sérieusement, moi je veux, vous pouvez dire « Seigneur, mais moi je m'interpelle ce qui a été dit ce soir, je veux un esprit en bonne santé, c'est vrai que je me lève, je suis tout le temps en train de râler ». Eh bien, Seigneur, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme se réjouit. Voilà un esprit en bonne santé. Alors, est-ce que vous êtes en bonne santé? Vous êtes en bonne santé? Je n'y vois pas bien, répondez. Nous nous réjouissons pas parce que nous sommes meilleurs, parce que nous avons fait des progrès, justement. Nous ne nous réjouissons pas parce que justement nous avons fait une semaine d'échec ou une semaine de succès. Nous nous réjouissons parce que nous sommes sauvés. C'est vrai, Seigneur, je n'ai pas passé une bonne semaine. Mais dimanche, j'irai te louer dans la maison du Seigneur parce que je suis sauvé. Vous comprenez? C'est ça la bonne santé. Il y a des gens, ah, j'en ai marre, mais je ne vais même plus à l'église. Puisque c'est ça, je ne vais pas à l'église. Non, non, non. Je suis brisé peut-être par rapport à une situation, je la règle, mais je me réjouis dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, vous savez, c'est écrit, moi j'ai rien inventé, c'est pas moi qui l'ai inventé cette prédication. C'est dans la Bible depuis 2000 ans. Dieu est notre joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, dit l'apôtre Paul, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Un chrétien qui est en bonne santé, il peut pleurer. Il peut pleurer parce qu'il a fait une bêtise et il va avoir l'esprit abattu. Et en même temps, c'est paradoxal, mais c'est la vérité. En même temps, il se réjouit parce qu'il appartient au Seigneur. Ça vous est jamais arrivé, ce genre d'expérience? D'un côté, vous êtes malheureux et en même temps, vous êtes capable de chanter. Oui ou non? Je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé. Et en même temps, on peut dire, je pleure parce que j'ai honte. Mais c'est pas mal, vous inquiétez pas, c'est bien, soyons honnêtes. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. On va arrêter, on continuera la prochaine fois si c'est nécessaire. Je n'ai pas vu que l'heure tournait autant. 2 Corinthiens, regardez, 2 Corinthiens chapitre 7. On continuera, si ça vous intéresse ce genre d'exhortation. Ouais, on continuera parce que je pense qu'il y a beaucoup de versets qui indiquent la bonne santé d'un chrétien. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. Là, le thème, c'est un esprit sain. Vous voyez, l'esprit, un esprit en bonne santé, c'est clair que c'est un esprit qui s'entretient dans la sainteté. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, voyez, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Quelqu'un qui veut marcher d'une manière spirituelle, quelqu'un qui veut être en bonne santé spirituelle, quelqu'un qui veut être rempli du Saint-Esprit, parce que c'est pour ce pourquoi on va prier maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi je ne veux pas que mon vase soit fermé, bouché, scellé, moi je veux que mon vase soit ouvert. Je veux travailler d'une manière spirituelle. Je veux être rempli du Saint-Esprit sur la base des vertus que tu nous proposes et que tu nous donnes ce soir. Je veux conserver un esprit saint. Je veux être utile à Dieu. Parce que je peux vous dire, écoutez, moi j'en ai honte. Il y a des gens qui ont des dons, il y a des gens qui ont des capacités, il y a des gens qui parlent en langue et qui ne sont pas utiles à Dieu. Oui, si vous étiez là jeudi, je peux vous dire que vous l'avez très bien compris. On peut être complètement insensé et pourtant avoir reçu l'onction. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Un chrétien qui ne marche pas dans la pureté, puisque c'est ce qui nous est demandé dans ce texte, est un chrétien qui va être une pierre d'achoppement. Et je peux vous dire qu'un esprit en bonne santé, c'est quelqu'un qui cherche à ce que son esprit soit sain. Sain, S-A-I-N. Sain, S-A-I-N-T. Mais c'est sûr qu'un chrétien, avec ce texte qu'on vient de lire, ce texte nous parle des souillures de la chair, des souillures de l'esprit. Il n'y a pas des choses qui peuvent souiller notre esprit. L'orgueil. Est-ce que l'orgueil, par exemple, ça peut... Parce que nous, on voit les péchés grossiers. Bon, c'est clair, ça c'est évident, c'est même pas la peine d'en parler. Mais est-ce qu'il n'y a pas des comportements qui peuvent souiller notre esprit? Un chrétien orgueilleux, est-ce qu'il ne va pas souiller son esprit? Eh oui, vous comprenez? La jalousie. Demandez à Caïn si la jalousie, ça ne lui a pas apporté tort. Ou à Saül, si la jalousie... Vous savez vu où ça a mené? C'est un péché de l'esprit, ça. Il a souillé son esprit. Il a été jaloux parce que les femmes chantaient. Ne chantaient pas. Il a chanté, Saül en a tué 1000 et David en a tué 10 000. Ne composez pas de cantiques comme ça, mes sœurs. Ce n'est pas la peine. Voilà, chanter tout le monde, les chrétiens ont vaincu tout le monde. Franchement. Mais voyez, en tous les cas, ça a servi de révélateur. Et la jalousie, il aurait pu dire, mais c'est pas normal. Peut-être quelqu'un lui a dit, mais quand même, comment tu te comportes? Ce gars, il a sauvé le peuple, il a tué Goliath, et tu es jaloux? C'est pour ça qu'il faut s'exhorter quand même. Si vous constatez quelqu'un qui a des souillures spirituelles, comme la jalousie, comme l'orgueil, etc., comme la dureté, le jugement, la critique, on devrait veiller les uns sur les autres. Il faut, si on s'aime, on devrait... Veiller, ça permet que tous les chrétiens aient un esprit en bonne santé. Est-ce que vous êtes d'accord de veiller les uns sur les autres? Bien sûr, il faut le faire avec amour. Si vous constatez que quelqu'un manque, dernièrement, avec Nicolas, on a dû régler le problème d'une sœur qui a menti. Elle a super mal réagi. Elle a super mal réagi. On lui a dit, mais non, mais c'est pour votre âme. Sinon, vous allez vous retrouver en enfer. Si vous vivez continuellement dans le mensonge, allez demander pardon aux gens qui vous avaient menti. C'est ça, parce qu'on n'est pas dans la théologie, là. Il faut que ça soit pratique. Une prédication, il faut que ça soit pratique. Mon âme, ou elle est malade, ou elle est en bonne santé. Bon, si c'est une petite fièvre, parce que, vous savez, il y a des fièvres, le lendemain, il n'y a rien. Mais si c'est un cancer généralisé, il vaut mieux peut-être s'en occuper. Il n'y a pas des textes dans la Bible où Dieu dit, mais ils sont malades, la tête, de la plante des pieds à la tête, ils sont malades. Dieu le dit deux ou trois fois, ça, dans la Bible. Ça fait peur, ça. Vous aimeriez que Dieu vous dise, eh bien, écoute, ce n'est pas la grippe que tu as, tu es malade de la tête aux pieds. Eh bien, si on est malade de la tête aux pieds, Jésus, là, moi j'ai vu que Jésus, il s'était pas mal pris avec un certain Lazare. Est-ce qu'il l'a soigné? Ben oui, c'est une question d'honnêteté. Purifions-nous de toute souillure. Oui, j'ai de l'orgueil, j'en ai honte, j'ai de l'orgueil, oui, je suis jaloux, oui, je suis envieux. Mais Seigneur, je vais m'en occuper. Je veux que mon esprit soit en bonne santé. Le contexte, je vous ai demandé souvent, quand on lit un texte, de regarder le contexte. Vous direz tout ce qui précède dans le chapitre 6. Dans la vie spirituelle, je termine parce que il y aurait trop de choses à dire. Dans la vie spirituelle, un chrétien, il doit faire attention à tout. Vous êtes d'accord? Et ces quelques versets, franchement, on a vu combien de versets? Une dizaine, 10, 15? Ouais, 15 ou 20. Franchement, honnêtement, on prie, vous priez pour moi, tout à l'heure encore, il y en a qui l'ont fait. Vous avez prié, vous dites, Seigneur, inspire notre pasteur, monsieur Gaud, tatati, tatata. Je crois que ces simples versets, si on prenait le temps, on peut le reprendre avec votre conjoint. Est-ce que c'est des versets qu'on peut reprendre avec un frère et une sœur dans une réunion de prière? Est-ce que c'est des versets qu'on peut reprendre pendant une semaine, qui avait mes cultes personnels? Vous savez, Dieu a vu. J'ai noté ces textes. Je vais tous les regarder. Moi, je veux être un chrétien équilibré.